Bonjour Ludo.
Bonjour Jacqueline.
Salut à tous.
Un sujet sensible aujourd'hui, mais dont on va essayer de parler sans être anxiogène. Parlons-en avec empathie, humilité, beaucoup d'humanité. Un sujet qui te tenait à cœur, loin de la comptabilité hein, et des effets d'annonce des politiques. Tu nous parles mal-être des agriculteurs et donc, disons-le, du suicide dans le monde agricole.
Oui, c'est vrai, c'est pas de saison, ça ne reflète pas le soleil, mais c'est vrai que ça me tenait à cœur, il faut en parler quand même. Alors je veux remercier Eric et Bernard de Solidarité Paysan, Héloïse de l'MSA et Sylviane Dureza. Merci à eux en fait d'avoir pris du temps pour discuter avec moi et m'apporter des éléments constructifs pour cette chronique. Alors oui, on va évacuer tout de suite les chiffres de cette comptabilité destinée à marquer les esprits, puisqu'elle est sauvée. On annonce un agriculteur qui se suit tous les jours en France aujourd'hui, et dans les Deux-Sèvres et la Vienne, nous sommes à une dizaine depuis janvier 2022. Que fait-on en fait à part avoir peur avec une telle comptabilité? Ces chiffres existent, mais ne guérissent rien. Il faut avant tout libérer la parole et mener une politique plus ambitieuse.
Alors Ludo, pour mieux comprendre les sources de ce mal-être, on parle souvent isolement, temps de travail trop important, soucis financiers. Oui. Quel éclairage tu peux nous apporter?
Ces trois causes, c'est le triptyque un peu classique. Ils sont souvent liés et c'est toute la difficulté. Donc un agriculteur qui est endetté aura tendance à travailler beaucoup pour en faire toujours plus, pour réussir à en rembourser. Avec le temps de travail qui augmente, la qualité du travail se dégrade. Et l'isolement s'accélère aussi. Alors si vie de famille il y a, l'équilibre devient de plus en plus précaire. Lorsqu'un épisode en plus, comme la sécheresse ou une nuée de grêle, ou même la grippe aviaire, viennent mettre à mal votre système d'exploitation, la pression mentale avec ses dettes est souvent compliquée à supporter, en plus de tout ça.
L'isolement, la surcharge de travail, un cercle vicieux, on l'a bien compris, un échappatoire en même temps.
Oui, alors un cercle vicieux, puisque isolé, vous ruminez vos idées. Alors nous sommes tous pareils en fait, agriculteurs ou non, nous avons tous besoin de nous changer les idées à un moment. Donc ruminer ses idées, c'est aussi ruminer ses échecs. Donc l'isolement n'est pas facile à casser, du fait de l'astreinte de l'élevage et du monde de taiseux, le monde de silence qui est souvent l'agriculture. Et même parfois de la honte qu'on peut avoir, ou l'impression en tout cas que tout le monde sait.
Et juge
rapidement en fait, c'est vrai. Surtout peut-être plus en campagne encore, où tout le monde se connaît. Et l'écuma, avec les difficultés de paiement qu'elles ont eues ces dernières années, ont contribué à libérer la parole et à signaler les situations compliquées de leurs adhérents, des agriculteurs, avant que le drame n'arrive. De son côté, elle, la MSA, a mis en place un réseau de sentinelles. Donc c'est des personnes côtoyant les agriculteurs au quotidien, implantées dans la campagne, destinées à repérer les situations difficiles pour les diriger vers des personnes comme Héloïse, justement, de la MSA, qui sont là, en fait, pour les accompagner et les aider à rebondir. Donc plus on repère en fait la situation tôt, mieux la personne en difficulté peut s'en sortir. Parfois les exploitants en fait, ils sont persuadés que tout le monde souhaite voir leur fin. Les COP, les privés, le consommateur, les voisins, l'administration même. Et tout le monde lui jette la pierre. Donc c'est la pression, c'est les soucis et c'est l'isolement.
Et le boulot, le trop de boulot.
Oui, alors le trou de boulot, lui, il sert d'échappatoire. Lorsqu'on ne peut plus ouvrir en fait le courrier, répondre au coup de téléphone, ouvrir les mails, on travaille en fait pour éviter le bureau, fuir, voilà exactement. On évite le bureau, la maison, et on a suite à ça une vague impression d'avoir moins de soucis. Donc ça, c'est humain, ça peut arriver à tout le monde, et on doit absolument conjuguer avec.
Dans quel ordre procèdent les accompagnateurs dont tu nous parlais pour aider les personnes en difficulté? Il y a une méthode?
Oui, mais une méthode, mais pas de modèle précis en fait. Le premier des bons points, par contre, tout le monde est d'accord là-dessus, c'est que la personne en détresse soit moteur dans la démarche. Donc ensuite, il faut le faire selon justement cette personne en face. Donc il faut d'abord en fait sécuriser les hommes et les femmes, ça c'est un véritable enjeu. Ensuite, par de l'écoute, de l'aide au répit aussi qui existe, ou une aide psychologique. Donc les personnes suicidaires, pour être clair, ne veulent pas mourir, elles veulent juste arrêter d'avoir mal. Et elles ne savent pas en fait comment faire autrement. Donc l'enjeu est de réussir à libérer ce mal. Et elles sont souvent en fait perdues aussi et répondent « je ne sais pas » à beaucoup de questions. Elles sont en fait complètement submergées en fait par la moindre décision ou position à prendre. Donc incapables de bouger sauf pour justement arrêter d'avoir mal. Il ne faut donc pas les renvoyer face à cette sensation d'incapacité en libérant cette fameuse parole autour du mal-être qui les détruit.
La démarche commence toujours, Ludo, par le côté humain. Et pour le côté financier, si c'est une source de problème, comment font-ils?
Alors avec des gros mots qui inquiètent souvent comme conciliation, redressement judiciaire, année blanche ou mandataire.
Ouais, ça peut être des outils de bon levier en fait.
Oui, mais souvent ça fait peur au début en fait.
Ouais.
Donc faut savoir les amener et avoir un temps pour amener ça au bon moment. Donc là aussi, c'est des organisations comme le RESA ou Solidarité Paysan qui vont s'en occuper. Donc en pratique, sans rentrer dans le technique, ces méthodes-là, ce sont des négociations avec les fournisseurs en fait pour démarrer. Renégocier la dette avec les COP, les privés, les banques et autres. L'objectif, c'est clair, c'est réduire la pression financière en fait et élaborer un plan de redressement soutenable par l'exploitant. Cela peut fonctionner ou cela peut se terminer par une une liquidation de la société.
Ces dettes dont on entend parler si souvent, elles viennent d'où?
Alors, le monde agricole, on en a déjà parlé plusieurs fois ici, hein, il a vécu des grosses évolutions depuis 1950 et à marche forcée, orientée par des politiques nationales et européennes, parfois soutenues par les organisations agricoles et parfois critiquées, mais clairement de manière minoritaire et pas assez écoutée. Donc ces évolutions, en fait, elles ont demandé toujours plus de capitaux, de machines, de cheptels, de bâtiments, toujours plus de tout, plus de temps de travail, plus de soucis. Et aujourd'hui, ce chiffre, hein, vous parlera peut-être plus, mais les agriculteurs en difficulté se retrouvent avec des dossiers où l'on retrouve régulièrement 400 000 euros de dette pour un homme. Les dossiers à plus d'1 million d'euros aujourd'hui sont de plus en plus fréquents. C'était 50 000 euros par exemple il y a 10 ans. Donc toujours plus de capitaux. Que feriez-vous, vous, avec tout cet argent si on vous annonce 1 million d'euros ou même 400 000 euros? Donc certains investisseurs en fait en feraient un parc immobilier en fait très rentable pour eux. Hein. Et là, c'est bien une des problématiques qui rendent fous nos éleveurs en détresse. Tout cet argent les assomme plutôt que de les porter vers des projets positifs.
En vendant son capital, un agriculteur est riche. À la retraite, peut-on dire? C'est presque de la provocation.
Oui, c'est de la provoque, c'est ce qu'on dit parfois même aux agriculteurs directement. De toute façon, vous serez riche à votre retraite. Mais ça, c'est vrai pour la génération qui est partie ou celle qui part en ce moment, en fait, hein, qui le voit comme ça. Les générations suivantes, cela va être différent. Parce qu'ils font concevoir l'outil agricole comme un moyen de production qui doit faire vivre les exploitants. Donc les bâtiments que les cédants souhaitent vous vendre sont en fait très difficilement rentables pour les repreneurs d'aujourd'hui. Et encore s'ils arrivent à les vendre aujourd'hui, hein, c'est à la retraite. C'est compliqué aussi. Donc installer, c'est très compliqué en fait pour les repreneurs aujourd'hui, notamment pour des jeunes installés sans trésorerie, hein, d'avance. Donc installer oui, mais il ne faut pas installer à tout prix. Puisque aujourd'hui, ce qui est assez nouveau, c'est que 25% des dossiers d'exploitants en détresse ont moins de 5 ans d'installation, donc des jeunes agriculteurs. Donc valider le projet boiteux de jeunes qui en rêvent, hein, n'est pas leur rendre service, clairement.
Toujours plus de capitaux, on parle beaucoup pourtant de petites fermes avec des installations hors cadre aussi, oui. Des gens heureux. Cela existe, Ludo?
Ça existe et c'est même très bien, hors cadre ou même dans le cadre familial. Mais les petites fermes, ça existe, c'est un vrai bol d'air, un nouveau regard pour l'agriculture. Mais les médias se concentrent sur eux. Vous avez l'impression en fait qu'ils sont partout. Alors que non, soyez conscients que les fermes continuent à s'agrandir. Il y a de gros projets qui se montent. Le fossé en fait grandit entre les exploitations qui arrivent, tout mode de production confondu, hein, c'est pas forcément les petites fermes qui arrivent le mieux. Mais qu'on soit productif, bio, petite ou grande ferme. Et celles, en fait, les autres qui n'y arrivent pas ou qui n'y arrivent plus. Donc c'est une différence de marché, de décision, de gestion. Une ferme achetée trop chère en cas d'agrandissement par exemple, une crise sanitaire comme il peut arriver cette année, un accident climatique pareil avec la grêle, ou un accident de vie tout simplement. Et tout ça, ça brise une dynamique.
Homme, femme, est-ce qu'il y a des différences dans la gestion de la détresse?
Visiblement oui, ceux qui s'occupent de tout ça le disent très clairement. Les femmes disent stop plutôt. Elles sont moins orgueilleuses et elles arrêtent les frais en fait avant les hommes. Donc les hommes se suicident plus, hein, c'est vrai, parce qu'ils sont plus nombreux déjà, aussi. Ça c'est la première des raisons. Mais aussi parce que la sonnette d'alarme est tirée trop tard. Donc en couple, alors c'est très dur à vivre tout ça, mais une femme et des enfants sont clairement identifiés comme un rempart contre le suicide. C'est lourd à porter parfois pour l'entourage, même très souvent, donc il fait aussi accompagner.
Et Ludo, on précise que Solidarité Paysan est reconnue association d'intérêt général. Vous pouvez donc faire des dons défiscalisés aussi pour soutenir leur travail sur le site solidaritépaysan.org et sur helloasso.com.
Très bien.
Sujet difficile, hein, mais
sujet
il fallait
difficile,
en parler.
Ouais.
Et la semaine prochaine, alors?
Eh ben, soyons
plus légers.
Plus légers, et puis les vacances arrivent. On va vous parler de ce que vous pouvez faire dans nos jolies campagnes, entre les balades et les escapades notamment, toujours à travers champs.
Dans les chemins creux, par exemple.
Ouh, et à l'ombre du soleil.
Merci beaucoup, Ludo.
Allez, bonne journée. Ciao.